Eh bien, merci à toute l'équipe d'Accent d'Europe. On évoque la santé mentale en France ce soir dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et c'est un sujet qui a violemment rejailli dans l'actualité, la santé mentale, après la mort hier d'une surveillante tuée à coup de couteau devant un collège par un élève de 14 ans, drame qui intervient alors que la santé mentale a été désignée en France grande cause nationale 2025. Et que dans ce cadre-là, eh bien, ce mercredi se tenait un comité interministériel sur le sujet. Dans une autre dimension, il faut citer ces personnalités, ces derniers mois, qui ont pris la parole pour publiquement évoquer les maladies mentales dont ils souffrent. D'où notre question ce soir, santé mentale, y a-t-il une prise de conscience? Est-ce que le problème est toujours autant sous-estimé? Ou est-ce que eh bien, les choses seraient en train de changer? Quelles conséquences si les choses changent? Quel chemin reste-t-il à parcourir? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, mes trois invités à mes côtés en studio, Guirchaume Abitbol, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes cofondateur de l'application Link, application dédiée à la santé mentale des jeunes, qui a été créée en septembre 2024, qui est déjà sur les smartphones de 300 000 jeunes, et qui est également, Link, une fondation. En ligne avec nous, Maëva Musso, bonsoir.
Bonsoir,
vous êtes
merci.
Je vous en prie, co-présidente de l'association des jeunes psychiatres et jeunes addictologues, membre du comité de pilotage santé mentale Grande Cause Nationale 2025 et j'évoquais justement le comité interministériel sur le sujet qui a lieu aujourd'hui. Vous êtes justement sur place, d'où le fait que vous êtes en ligne avec nous. Également en ligne, Pedro Serra, bonsoir, notre troisième invité.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre, chef de pôle de psychiatrie à l'hôpital Ville-Évrard, chef du secteur à Bondy, en Seine-Saint-Denis, président de Santé Mentale France Île-de-France. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors pour commencer, je me dois vous faire réagir à ce qui s'est passé hier devant ce collège à Nogent. Ce soir, le procureur de la République affirme que l'élève donc, qui est suspecté d'avoir poignardé mortellement une surveillante devant un collège ne présente, cet élève, aucun signe, je cite, hein, évoquant un possible trouble mental. Pedro Serra, je me tourne vers vous, qui êtes psychiatre, qui êtes chef de pôle psychiatrie. Comment est-ce que vous recevez une telle déclaration?
Vous savez, c'est tout à fait possible. Les troubles psychiques sont des choses bien, bien caractérisées et qu'on reçoit et qu'on soigne dans nos services. Ce jeune homme, visiblement, il n'allait pas bien. Hein, donc, il y a un mal-être visible. Il était sous influence de quelque chose que j'ignore. Mais il a commis un acte absolument brutal, barbare, incompréhensible. Mais je ne connais pas toutes les motivations. Mmh. Il est connu que les jeunes gens traversent des périodes de souffrance psychique, de décisions parfois absurdes. Et je pense que nous devons être proches de ces personnes pour les écouter, les accompagner. Voilà.
Mais c'est intéressant quand on pose la question de est-ce qu'il y a une prise de conscience? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il puisse y avoir un tel acte sans problème mental?
Il peut s'agir d'un acte irréfléchi et très aigu, sans une maladie mentale de fond. Vous voyez, il peut être sous influence d'une émission, d'un groupe de conversation, d'une logique adolescente. Moi, je ne connais pas ses motivations. Il faudra qu'on s'intéresse davantage aux motivations de ce jeune. C'est un acte assez rare. Vous voyez, certes, il faut se rappeler que les adolescents sont capables de se tuer. Il y a pas mal de suicides d'adolescents, parfois pour des raisons futiles. Donc, ils sont parfois impulsifs. Mais de cette nature-là, il est assez rare qu'on observe en France des actes de cette nature.
Mmh. Ça montre en tout cas toute la complexité des troubles mentaux.
Toute la complexité et la nécessité que nous avons tous, enseignants et professionnels de la santé mentale, d'être proches des jeunes à leur écoute.
Maëva Musso, et c'est vrai que depuis hier, les prises de position se multiplient pour évoquer la santé mentale après ce drame. Elisabeth Borne a évoqué la santé mentale, la ministre de l'Éducation nationale, mais pas que elle, hein, dans la classe politique. Ce mot, est-ce qu'il aurait autant été évoqué sur un tel drame il y a quelques années? Ou est-ce que ça montre justement que peut-être des choses sont en train de changer sur ce sujet?
Alors moi, je vais proposer d'angler les choses un peu différemment. C'est vrai que là, on est l'année de la grande cause de santé mentale, donc il y a des actions qui se multiplient, des prises de parole et des annonces faites, comme au COSTRA aujourd'hui par le ministre Monsieur Yannick Neuder. Et en fait, aujourd'hui, d'associer encore dans un média de manière spontanée le terme de meurtre et le terme de santé mentale, ça montre quand même qu'il y a une persistance de la stigmatisation. Car si on prend la totalité des personnes qui sont suivies actuellement ou qui ont des troubles de santé mentale actuellement, c'est à peu près 15 millions de personnes. Et si on fait le lien aujourd'hui dans les médias, c'est sur un fait divers, c'est sur un fait violent qui ne représente pas du tout les personnes dans leur ensemble. Alors,
personne n'a dit qu'il y a eu un meurtre parce que cette personne souffrait ou pas de santé mentale. Hein.
Oui, mais ce sont deux thèmes qu'on associe aujourd'hui encore dans l'actualité.
Et est-ce que c'est pas plutôt sain justement d'évoquer que le fait qu'il puisse y avoir un problème de santé mentale à la base ?
Alors, c'est très bien de pouvoir aborder la question de la santé mentale, mais il y a quand même tout un travail des médias à faire sur la manière dont on l'aborde, les termes qu'on utilise et toutes les incertitudes qui peuvent aller entre l'origine des faits, la situation de la personne, surtout de manière extrêmement précoce. Et ce travail-là des médias, c'est une vraie responsabilité à la fois des médias radio, des médias écrits. Et ça, c'est un travail à faire, je pense, c'est ce que nous défendons en tous les cas à la GPGA, dès les écoles de journalistes. Au même titre qu'il faut, dès la formation des médecins, des psychologues, des infirmiers, permettre à des personnes concernées de prendre la parole et de former les futurs soignants, il faut faire la même chose avec les journalistes pour que les futurs journalistes puissent entendre le récit de personnes concernées qui se sont rétablies de manière tout à fait différente et changer de manière de raconter les choses et de raconter l'actualité. Ouais, ça, c'est quelque chose qu'on défend à l'association.
Ça montre que finalement, ça reste un sujet tabou dont on ne parle pas. Si les journalistes ne sont pas capables d'en parler, tel que vous le dites, que les médecins ne sont pas capables de le traiter.
Ah si, nous on en parle, c'est notre quotidien, donc on n'a pas de difficulté avec le fait d'en parler. Hein.
Mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a, c'est si difficile selon vous, pour les journalistes de parler de ces sujets-là ? Est-ce que c'est parce qu'il y a une mauvaise information sur le sujet ?
Oui, c'est ça, bien sûr. Il y a un manque de formation et il y a une mauvaise information sur la santé mentale en général, sur les troubles, sur les personnes qui sont victimes de troubles et qui sont en fait présentées souvent en association avec des faits divers. Alors qu'on le sait, et ça ressort dans les études, c'est que les personnes qui souffrent de troubles sont plus souvent victimes que auteurs. Ouais. Mais sauf que dans l'actualité et dans les médias, c'est l'inverse qui, en fait, la manière dont on le montre, en fait, donne l'impression de l'inverse. C'est-à-dire, on revient souvent avec cette thématique de la personne avec un trouble qui a commis un acte grave, etc. Alors qu'en fait, ce sont beaucoup plus des personnes victimes que des personnes auteurs.
Guirchaume Abitbol, vous partagez ce point de vue ? Vous pensez qu'il y a cet amalgame à la fois de la part des médias et de la part de la population ?
Non, je pense qu'aujourd'hui, la santé mentale, c'est vrai qu'on peut avoir une vision assez négative. Nous, d'abord, on travaille beaucoup sur la prévention, donc on peut parler aussi de bonne santé mentale. C'est important, on en a tous une, il faut savoir l'entretenir, il faut la cultiver, sa santé mentale, au même titre qu'on doit faire attention à sa santé physique. Mais je pense que ce qui s'est passé hier, ça démontre surtout... Alors, c'est un acte extrêmement violent, mais on voit beaucoup de jeunes qui s'infligent à eux-mêmes aussi des actes violents. Quand on parle d'automutilation, de scarification, de tentative de suicide. Alors là, en l'occurrence, c'est un acte violent vers quelqu'un d'autre, mais on a beaucoup de jeunes qui se font du mal aussi, et énormément même. Hein. Et ils le font également parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans la société. Je pense qu'en fait, il faut aller un peu au-delà. Aujourd'hui, on est dans des réponses qui sont systématiquement des réponses de soins, et c'est très important de développer le système de soins, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout à la hauteur. Mais pas du tout à la hauteur. Ouais. Mais ce qu'on peut aussi essayer de faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de gens qui tombent dans des troubles, faire en sorte que les jeunes, ils s'épanouissent, qu'ils soient mieux dans leur basket, et qu'ils n'aient pas besoin de passer par ce parcours de soins, simplement parce qu'on a fait en sorte qu'ils puissent s'épanouir et on a réglé un certain nombre de problèmes qu'on refuse de régler. Je pense à l'école, par exemple, dans sa globalité. Aujourd'hui, l'école, c'est un rouleau compresseur. Le jeune qui sort de la norme, il est écrasé par ce rouleau compresseur. Donc forcément, il tombe dans le mal-être. On en a énormément. On a 53% des jeunes qui déclarent un trouble anxieux.
Alors, c'était la question que j'allais vous poser, parce que Maëva Musso disait qu'on manquait d'informations sur la santé mentale. Allons-y. Vous qui êtes justement cofondateur de cette application Link, qui est dédiée à la santé mentale des jeunes, vous dites que c'est plus de 50%, donc plus d'un jeune sur deux confronté à des troubles mentaux en France.
Qui déclare un trouble anxieux. Maintenant, ouais. L'INSERM, dans une étude, a montré que 70 à 80% des troubles anxieux finissent en dépression. Donc l'idée, c'était d'intervenir avant le trouble anxieux. En fait, c'est d'intervenir en amont, c'est se demander pourquoi ces jeunes, ils ne se retrouvent pas dans la société d'aujourd'hui.
Pourquoi les jeunes, ce sont les premiers touchés.
Mais alors, nous, c'est le sujet sur lequel on travaille. Ça touche tout le monde. Moi, je dis qu'il y a beaucoup d'adultes qui ont des difficultés en termes de santé mentale, qui sont des jeunes qui n'ont jamais été soignés, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont grandi, se sont construits avec un mal-être, avec des difficultés qu'ils n'ont jamais réglées, puisqu'à l'époque, c'était quand même très tabou. L'accès aux soins, aux psychologues, aux psychiatres, c'était assez... il y a 20 ou 30 ans, c'était quand même assez mal vu. Personne n'en parlait, quoi. Aujourd'hui, ces jeunes, ils refusent de grandir comme nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas un modèle pour eux. Et quelque part, ils n'ont pas tort. Parce que qu'est-ce qu'on leur montre ? On leur montre une société qui... On dit à nos jeunes, vous vivrez moins bien que nous. Vous êtes la première génération. On ne peut pas vous garantir que vous aurez une vie meilleure que la nôtre. Ils ont du mal à se projeter. Ils ont du mal à se projeter dans l'environnement, dans la crise climatique, dans les crises internationales, les crises géopolitiques. On a un climat d'anxiété qui est quand même très difficile à vivre pour eux. Et ils veulent pas, en fait, ils n'ont pas envie de subir la vie que nous, on subit. Ils voient leurs parents en burn-out, ils voient leurs parents divorcés, ils voient leurs parents qui vont travailler à reculons. Est-ce que vous croyez qu'ils ont envie de vivre comme ça ? Aujourd'hui, avec les réseaux, et ça, c'est les bons côtés des réseaux, c'est ils voient en fait qu'ils sont pas seuls en fait à vivre dans ce genre de situation, et ils se nourrissent aussi des expériences des autres en disant moi c'est pas ma vie, moi j'ai envie de travailler différemment. On parle de la Gen Z, tous ces entrepreneurs qu'on entend dire ah non moi la Gen Z je les recrute pas, ils sont feignants, bons à rien, etc. Mais ils ont rien compris parce que dans 10 ans ils auront plus personne, il y aura plus qu'eux. Donc il va bien falloir adapter la société à cette génération qui a envie de vivre différemment.
Et il y a une spécificité assez française, d'ailleurs, à la fois ce mal-être des jeunes qui est créé, vous dites aussi, par des discours ambiants, très sociétaux, très français.
Bah, c'est hyper anxiogène. Allumer la télé, ils l'allument plus, les jeunes, depuis bien longtemps. Mais on est quand même dans un climat qui est anxiogène. Mais c'est pas que français. On va dire que c'est occidental. Ouais. En fait, c'est même, je dirais qu'au moins, aujourd'hui, ils portent leur voix et disent « nous, ça ne nous convient pas ». Voilà. Et à nous, adultes, d'écouter et de se dire mais pourquoi ils veulent que les choses évoluent, les choses changent, et comment est-ce qu'on peut adapter la société à cette génération qui, finalement, a envie de mieux vivre.
Ce qui est tristement spécifique pour la France, c'est le taux de suicide qui est l'un des plus élevés en Europe, ou encore la prise de médicaments qui est particulièrement forte en France par rapport aux voisins européens. Pedro Serra, vous qui êtes chef de pôle de psychiatrie à l'hôpital Ville-Évrard, est-ce que ce sont les jeunes qui poussent en premier lieu la porte de vos établissements ?
Écoutez, je suis un ancien pédopsychiatre et je me suis occupé particulièrement d'adolescents. Je dirais tout d'abord que la France a fait quelques progrès ces 40 dernières années, ces 30 dernières années, avec la création de consultations spécifiques pour des adolescents. Un travail préventif important, les maisons des adolescents le jour partout en France. Je pense que c'est une très bonne chose parce que les adolescents n'avaient pas la culture de la consultation psychologique. On voyait dans les CMP, les centres médico-psychologiques, beaucoup d'enfants, et dans les centres médico-psychologiques pour adultes, beaucoup d'adultes. Et les adolescents, ils passaient un peu entre les gouttes. Je pense qu'il y a tout un effort, tout un travail destiné à accueillir ces adolescents dans les lieux spécifiques. Il faut quand même, par contre, faire attention à une chose. Ce travail préventif d'écoute et de discussion avec les adolescents doit venir avant toute autre chose, toute catégorisation en termes de maladie mentale. La prévention, c'est la possibilité d'accueillir ces jeunes personnes le plus possible. Les articulations entre les professionnels de santé mentale, les professionnels de l'éducation nationale sont des choses extrêmement importantes et qui parfois se perdent au bénéfice d'une catégorisation de jeunes sur tel ou tel diagnostic, comme hyperactivité ou autre diagnostic. Je pense qu'il faut généraliser la possibilité aux jeunes gens d'avoir une écoute à propos de leur mal-être. Quand on a un mal-être existentiel, on n'a pas une maladie mentale, on n'a pas un trouble psychique caractérisé. Donc, les professionnels de l'éducation nationale, les assistantes sociales, les infirmières, qui existent d'ailleurs de moins en moins, les médecins scolaires, qui sont très importants au sein de l'éducation nationale, et qui existent de moins en moins dans ce travail de prévention et d'articulation, sont des partenaires fondamentaux de la psychiatrie pour justement rendre la santé mentale ou l'expression de sa souffrance psychique plus facile. Voyez. Donc, aujourd'hui, l'évolution est d'un côté positive avec la création de maisons des adolescents et d'autres consultations, mais il y a de mon côté une certaine inquiétude de par la prolifération de diagnostics à tout va et une priorité donnée à chercher le bon diagnostic pour un certain groupe de personnes qui s'estiment au potentiel par-ci, hyperactif par-là, au bipolaire, etc. Je pense que ce sont des choses qui existent en psychiatrie, en santé mentale, qu'il faut considérer, mais le travail d'accès et de prévention sont tout aussi importants, voire plus importants.
Ça progresse sur la progression, c'est moins précis sur le diagnostic, vous nous dites, Pedro Serra. Maëva Musso, vous qui êtes membre du comité de pilotage santé mentale Grande Cause Nationale 2025, pourquoi cette Grande Cause Nationale, la santé mentale, alors que, et Pedro Serra a évoqué les infirmiers à l'école qui sont plus renouvelés, les psychologues également, il y en a de moins en moins, les moyens reculent et on érige en France la santé mentale au rang de grande cause nationale. Est-ce que ce n'est pas un peu une opposition ?
Alors, le fait d'ériger la grande cause nationale santé mentale, c'est avoir une pensée, on va dire, interministérielle, avec l'élaboration d'un plan de santé mentale publique. Et justement, tout à l'heure, Monsieur Habitbol parlait de la question des réseaux sociaux. Alors moi, j'aimerais revenir là-dessus parce que là, je sors du COSTRA au ministère et ils ont dénoncé les réseaux sociaux et le dévoiement en fait des réseaux sociaux. Il faut rappeler que les réseaux sociaux, ils viennent catalyser en fait ce qui expose les enfants et les adolescents à des déterminants péjoratifs de santé. D'ailleurs, l'OMS reconnaît une certaine utilisation des réseaux sociaux comme un déterminant social de santé mentale. Donc ça, c'est très important.
Emmanuel Macron a annoncé hier qu'il souhaitait que ce soit interdit au moins de 15 ans.
L'OMS n'a pas dit
exactement.
Ça. L'OMS a écrit
Allez-y. L'OMS reconnaît les réseaux sociaux comme un déterminant social de santé mentale. Et on n'a pas encore identifié actuellement les acteurs clés pour agir, pour sensibiliser et avoir vraiment des actions ciblées sur cela. Et c'est évident qu'il faut que ça passe à la fois par les jeunes, par les familles, comme avec de la guidance parentale, par exemple. Et il faut avoir une vision interministérielle, c'est-à-dire la santé, l'éducation nationale, la justice, le médico-social. Et ça, ça va permettre de faire des actions de prévention et de promotion de santé. Et quand on parle de prévention en santé, c'est pas qu'une affaire de psychiatrie, c'est une affaire de société, c'est une affaire politique. On peut pas faire reposer sur la psychiatrie la charge de... tout ce qui est exposant en termes de santé mentale.
Mais alors, vous n'avez pas vraiment répondu à mes questions. Guillaume Guillaume-Pitbull, par ailleurs, n'était pas d'accord avec vous sur la question de l'OMS et les réseaux sociaux, mais je voudrais revenir sur cette opposition entre moins de moyens, finalement, constatés pour la psychiatrie en France et une santé mentale qui est érigée grande cause nationale. À quoi bon ériger la santé mentale en grande cause nationale s'il s'agit de réduire les moyens ?
Alors, la santé mentale n'est pas égale à la psychiatrie. La psychiatrie fait partie de la santé mentale. Et c'est pour ça que... Donc, en fait, pour moi, j'ai quand même répondu à la question parce que quand on parle de prévention et de promotion en santé, c'est aussi une manière de ne pas arriver jusqu'aux troubles. Et donc, si on fait de la promotion et de la prévention en santé et qu'on permet en amont de réduire l'exposition, et ça dès la petite enfance, hein, c'est-à-dire la précarité, les questions de logement, l'exposition aux violences, etc., on va réduire de fait, en fait, l'incidence des troubles. Par contre, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi M. Habitbol n'est pas d'accord.
Non, mais ça, c'est un autre
quand je dis que le déterminant social de santé, les réseaux sociaux sont un déterminant social de santé mentale, parce que je vois pas sur quoi il se base.
C'est un sujet dans le sujet, mais on va un petit peu avancer dans notre débat et on va éviter de rentrer dans cette polémique-là. Parce que le sujet est vaste, évidemment. Ce soir, la question qu'on pose concerne la santé mentale et on essaie de savoir s'il y a une prise de conscience en France. Mes trois invités sont Maëva Musso, que l'on entendait, qui est présidente de l'association des jeunes psychiatres et jeunes addictologues, membre du comité de pilotage santé mentale Grande Cause Nationale 2025, en ligne avec nous, alors que se déroule un comité interministériel sur le sujet aujourd'hui. Pedro Serra, psychiatre, chef de pôle de psychiatrie à l'hôpital Villevrard, chef du secteur à Bondy, président de santé mentale Hôpital France Île-de-France, et Guirchoma Bitbol, cofondateur de l'application Link, application dédiée à la santé mentale des jeunes, qui est installée par 300 000 jeunes. Et Link est également une fondation. J'évoquais en préambule de cette émission les prises de parole de personnalités qui se sont multipliées ces derniers mois. Il y en a une qui a particulièrement fait du bruit, et j'ai envie d'entendre vos réactions, messieurs, dames, sur ce sujet. C'est Nicolas Demorand, qui est journaliste, qui est présentateur de la matinale sur la radio française France Inter, et il a fait le tour des plateaux pour annoncer sa bipolarité. On va l'écouter. Il s'exprime au micro de sa radio France Inter le matin du 26 mars dernier.
Oui, je suis un malade mental, c'est cru, c'est violent à dire et peut-être à entendre, mais je ne veux plus le cacher, ni me cacher. Comme des centaines de milliers de Français, je suis bipolaire, bipolaire de type 2. J'alterne donc des phases d'euphorie et des périodes de dépression, mais je suis soigné. Et je suis là chaque matin, tendu vers un objectif, celui de travailler avec toute l'équipe pour vous informer, vous divertir et vous faire ressentir des émotions. Si je me suis tue si longtemps, c'est parce que la maladie mentale fait peur, parce que la maladie mentale reste une maladie honteuse, et oui, j'avais honte. La maladie est pour moi un état, et j'ai décidé maintenant d'en faire un combat pour tous ceux, des milliers, des centaines de milliers, des millions peut-être, qui souffrent en silence alors qu'il est possible de vivre et de travailler avec une maladie mentale.
Voilà, Nicolas Demorand, donc le 26 mars dernier sur France Inter, Guirchoma à Bitbol. Comment est-ce que vous avez reçu, vous, cette prise de parole? Parce qu'on a beaucoup entendu Nicolas Demorand. Est-ce que, effectivement, parce qu'il parlait de peut-être millions de personnes, est-ce que ça brise, et c'est un mot qu'on a évoqué, ce tabou? Puisqu'on essaie de savoir si les choses avancent sur le domaine de la santé mentale en France.
D'abord, c'était très courageux de sa part, parce que quand on est une personnalité publique, prendre la parole sur ce type de sujet, ça peut avoir beaucoup d'impact sur la vision que les autres peuvent avoir de nous-mêmes. Donc déjà, c'est déjà très courageux. Oui, évidemment, c'est important, les prises de parole publiques pour évoquer ce type de troubles. Maintenant, c'est vrai que nous, on est plus orientés sur les jeunes. Mais
est-ce que ça peut parler aux jeunes? Alors, parce qu'il y a Nicolas Demorand, mais il y a eu
d'autres. Voilà,
il y a eu plein de sportifs. Il y a eu Simone Biles, la gymnaste américaine, qui a parlé de son mal-être. Il y a eu Naomi Osaka, la tenniswoman japonaise. Il y a eu Yannick Noah aussi. Il y en a plein.
Non, bien sûr. Et
c'est nouveau.
Oui, c'est nouveau et c'est important. Mais vous savez, c'est très important. Je peux vous dire que, justement, sur les réseaux sociaux, beaucoup de jeunes évoquent leurs troubles et leurs difficultés en santé mentale. C'est-à-dire que la parole, elle s'est libérée. C'est pas d'il y a deux semaines ou un mois ou trois mois. Ça fait deux ans, trois ans. Moi, je vois ma fille, par exemple, avec qui j'ai monté ce projet, qui a eu un parcours psy très compliqué dans son adolescence. Ça fait deux ans qu'elle parle de ces sujets-là. Ça fait deux ans qu'elle alerte en disant « je reçois des... ». Elle est suivie par 2,5 millions de jeunes sur les réseaux. Et ça fait deux ans qu'elle dit « je reçois des milliers de messages de jeunes qui vont pas bien ». Qui disent qu'ils se font du mal, qu'ils veulent mourir, etc. Donc ça fait longtemps qu'on alerte, mais c'est bien qu'il y ait des personnalités publiques qui prennent la parole sur ce sujet, parce que ça attire l'attention du public, et donc ça permet d'avoir aussi un effet de masse médiatique, et ça rend le sujet, je dirais, plus au centre des débats.
La parole s'est libérée, Pedro Serra, nous dit Guirchoma à Bitbol. Est-ce que ça, c'est pas l'élément clé dans la prise en compte de la santé mentale, la libération de la parole?
C'est un élément, c'est un bon élément. Je pense que c'est un acte effectivement courageux de la part de M. Demorand, que je n'avais pas entendu jusqu'ici, je n'ai pas eu le temps. Mais je pense que c'est une bonne chose du côté de la déstigmatisation. Mais lui, il a une chance, c'est qu'il a eu accès, de par son niveau culturel, de par son lieu d'habitation, de par la nature de sa pathologie, il a eu un accès à probablement de très bons soignants qui l'ont soigné correctement et il se porte bien. Or, la grande difficulté que nous avons dans la psychiatrie publique française, c'est la question de l'accessibilité. Les services sont saturés de patients qui demandent et qui attendent très longtemps. Monsieur Demorand n'a pas attendu 3 mois ou 6 mois pour consulter.
Je mets un petit bémol parce que dans son livre qui s'appelle Intérieur Nuit, il évoque l'errance médicale.
Ah, bon, donc il partage certaines souffrances de la population générale, et c'est tout à son honneur de pouvoir plus le dire. Mais je pense que c'est une question qu'il a soulevée, qui me semble très, très importante, mais il faut qu'on travaille encore davantage sur l'offre de soins généralisés. La France n'a pas une mauvaise organisation du système de santé mentale, qui est l'organisation sectorielle pour ce qui est de la psychiatrie publique, et qui va dans tout le recoin du pays, offrir quelque chose. Mais sauf qu'aujourd'hui, ce système est saturé en grande souffrance et quelque part un peu dévalorisé. Voyez. Et je pense que la souffrance du système de santé publique français génère une augmentation de la souffrance psychique dans la population qui est moins favorisée que M. Desmorand, qui est une population pauvre, qui n'a pas autant que ça une conscience de son trouble. Parfois, il y a des pathologies encore plus sévères que la sienne, vous voyez, qui sèment le doute. Et donc, la rencontre avec un bon professionnel est un élément déterminant pour la bonne évolution, la bonne réinsertion et le rétablissement de la personne concernée par un trouble psychique. Voilà un élément qui me semble encore plus important que ces prises de parole, qui sont elles-mêmes très importantes, qui est l'accessibilité aux soins avec une certaine rapidité.
Et une accessibilité qui recule, on dira-t-on, avec des moyens qui sont toujours moins importants. Mais oui, évidemment, les fractures sont importantes entre ville et campagne aussi sur ces sujets-là.
Il y a trop de demeure. Il y a trop de monde dans le circuit, en fait. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'accompagner ces jeunes. Il faut développer cette culture du bien-être chez les jeunes. Faire en sorte de limiter tout ce qui est évitable. C'est ça qu'on ne fait pas, en fait, en France. On ne fait pas ça. Tout à l'heure, on évoquait la prévention. La prévention, ce n'est pas la maison des ados. C'est faire en sorte qu'un jeune, il soit bien dans sa tête et qu'il n'ait même pas besoin d'y aller. C'est ça, la solution, si on veut limiter le flux et pouvoir gérer, justement, les pathologies non évitables. Et ça, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Mais absolument pas. Pourtant, c'est ça que les jeunes attendent, en tout cas.
Maëva Musso, donc il y a une prise de conscience, finalement. C'est ce qui ressort de notre débat ce soir. Mais il y a encore des choses à faire. Et quelles sont les priorités? C'est intéressant parce que dans les minutes qui viennent, il y a un plan qui doit être annoncé. Vous qui êtes depuis le comité interministériel, quelles sont les priorités?
Alors, en termes de priorité, il doit y avoir une répartition équitable au niveau du territoire. Oui. C'est-à-dire que l'accessibilité aux soins, mais aussi en amont à la prévention, doit être équitable, justement, comme le disait Monsieur Serra, et pas uniquement aux personnes les plus favorisées. Que les déterminants sociaux de santé qu'on connaît, hein, les déterminants socio-économiques qui sont la question du logement, de la précarité, de l'exposition aux violences dès l'enfance soient prévenus, parce que c'est ça qui favorise la survenue des troubles, et qu'il y ait une politique interministérielle de promotion et de prévention de la santé. Au niveau des soins, nous à la JPJA, on a demandé plusieurs actions. On a demandé l'abolition de l'isolement, de la contention. On a demandé une massification de l'offre en pédopsychiatrie, car actuellement elle est largement insuffisante, puisque c'est dès la petite enfance qu'il faut intervenir quand il y a des difficultés, des souffrances, pour justement éviter que les troubles s'aggravent et se chronicisent. On a demandé aussi la possibilité que la déprescription soit accessible sur tout le territoire, et ça actuellement il y a des agences et des institutions nationales qui y travaillent, la HAS, la NSM, l'assurance maladie qui se penche sur le sujet.
Ça concerne les médicaments.
Oui, bien sûr, c'est que les personnes puissent être accompagnées pour pouvoir réduire leurs prescriptions et arrêter leurs prescriptions lorsque c'est le moment, par des professionnels, comme c'est le cas en Hollande, en Norvège, en Angleterre. Ça, c'est très important. Il y a eu un rapport de l'assurance maladie qui a été publié l'été dernier, qui montre une explosion de la prescription chez les 12-25 ans, qui est assez préoccupante et pour lesquelles nous devons réagir. Et là, il faudrait aussi que j'évoque, alors ce n'est pas directement en lien avec la déprescription, mais c'est en lien avec la prescription.
En quelques secondes.
C'est la question des ruptures de stock actuellement de médicaments qui sont extrêmement préoccupantes et qui mettent dans un état d'angoisse et de préoccupation et qui exposent les personnes en soins de manière assez considérable, et nous en avons parlé aujourd'hui au COSTRA.
Et qui sont certainement un symbole aussi de la considération qui n'est pas encore à la hauteur de ces maladies mentales, justement, ces pénuries d'antidépresseurs et de psychotropes. Merci beaucoup, même si il y a une prise de conscience. Merci beaucoup à vous trois, Guillaume Guerchaume, Abitbol, Maëva Musso et Pedro Serra, et merci à Florence Ponce qui était là à préparation de ce débat, et Hélène Avril à sa réalisation.
RFI.
Allez, le programme continue sur Radio France Internationale. Après le grand journal du soir, ce sera Afrique Soir dans 30 minutes. On va jeter un coup d'œil au programme de ce soir. Sylvie Béret, bonsoir.
Bonsoir Romain.
Alors, quel programme?
On va parler du Kenya avec une vague d'indignation dans le pays après la mort d'un jeune homme qui avait été arrêté par la police. Le président kényan, William Ruto lui-même, dénonce une mort inacceptable. Et cette affaire surtout relance la polémique autour des violences policières dans le pays. Nous ferons le point sur les négociations de paix entre la République démocratique et le Rwanda. Les discussions doivent reprendre cette semaine à Washington. Et puis le football, les supporters des Lions de la Teranga qui ont fêté la performance du Sénégal hier qui a battu l'Angleterre 3-1 en match de prestige amical à Nottingham. Voilà en gros pour le sommaire, Romain.
Bon, on sera à l'écoute et puis on attend Christophe Pagé, hein. Il va venir pour... Ah, il arrive, le grand journal du soir à suivre, bougez pas.